porter jusqu'à Lusaka, à la capitale. Donc, et aussi, on avait pédalé juste pour aller me chercher en route.
Une expérience que le jeune athlète, avec ses seules jambes pour pédaler, compte bien renouveler avant son arrivée au Cap, en Afrique du Sud, qu'il espère atteindre dans un mois.
Paul Lorgerie, et c'est à vous, André de Mellard.
Merci, Nemo en Peace. C'était le journal sur RFI, 7h43 à Paris, dans 20 minutes. Une nouvelle édition présentée par Jeanne Bartoli, ensuite édition spéciale sur RFI sur la guerre en cours entre Israël et l'Iran, 4 jours d'une offensive extrêmement violente. Comment qualifier cette montée de tension? Comment qualifier ce front qui ne doit pas en faire oublier un autre, la bande de Gaza, après bientôt 2 ans d'une opération militaire sanglante menée par l'État hébreu? On y revient ce matin jusqu'à 9h30, heure de Paris. Restez bien avec nous. Tout de suite, le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Du foot à la une, le mondial des clubs se poursuit aux États-Unis. Le Paris Saint-Germain démarre idéalement.
Le PSG vainqueur 4-0 de l'Atlético de Madrid est en tête de sa poule B devant Botafogo qui a dominé les Seattle Sounders 2-1 cette nuit. Suite de cette première journée ce lundi avec les rencontres du groupe D, Chelsea est opposé au Los Angeles FC, l'équipe des anciens internationaux français Olivier Giroud et Hugo Lloris, mais aussi de l'actuelle panthère gabonaise Denis Bouanga, véritable héros de son équipe puisque c'est lui qui l'a qualifié pour ce mondial lors du match de barrage contre les Mexicains de Club América. L'ancien joueur de Lorient et de Saint-Etienne est impatient de disputer ce nouveau tournoi.
Ça va être magnifique, je pense, pour les États-Unis. Ce tournoi avant la Coupe du Monde va être beaucoup regardé et va être cool aussi au niveau des joueurs. C'est une compétition qui est pour moi très belle. Et Los Angeles a la chance d'y participer. On a tout fait pour. L'objectif, c'est de se confronter à de grandes équipes, de savoir où on en est, tout simplement, de comparer ces équipes aux équipes de MLS. Personnellement, moi, j'espère qu'on va gagner des matchs, que LFC part dans l'objectif de gagner et de ressortir de cette compétition très grand.
Chelsea-Los Angeles, coup d'envoi 19h, temps universel. L'Espérance de Tunis, elle affrontera la nuit prochaine à Philadelphie le CF Flamengo, actuel leader du championnat brésilien.
En cyclisme, Antoine, le Tour du Cameroun s'est achevé sur le tout premier succès final d'un Algérien.
Un tour dominé par Islam Mansouri devant le Burkinabé Moukala Rwende au terme d'une 10e et dernière étape remportée par l'Allemand Lucas Carstensen. Retour sur cette 21e édition avec Joël Wadem.
Après s'être adjugé le maillot jaune à une étape de la fin de la compétition, l'Algérien Islam Mansouri était très attendu lors de cette 10e étape. En arrivant dans le peloton, il permet à son pays de remporter son premier tour du Cameroun.
C'est la première victoire Tour du Cameroun pour l'Algérie. On est très content pour cette performance. Ah, c'est génial.
Le Burkinabé Moukala Rwende est deuxième au classement général à la grande satisfaction de Jérémy Ouedraogo, le directeur sportif des étalons.
Le bilan est positif. En venant, on ne pensait pas qu'on allait avoir le maillot du meilleur jeune, à vu les relèves qui étaient sur le parcours. La deuxième satisfaction, c'est le podium. On est deuxième au classement général. Le résultat est très positif.
Le Camerounais Boris Michel Tchentche a détenu le maillot jaune de la première à la 8e étape. Ayant échoué si près du but, il n'a que des regrets.
Beaucoup de regrets, vraiment. À la 9e étape, j'ai été pris dans une chute. Donc voilà où a été mon retard. J'ai perdu le maillot jaune à 52 secondes. Croyant qu'aujourd'hui on pouvait récupérer, bon, ça n'a pas été facile. On attend l'exigence à venir.
Cette échéance au niveau du Cameroun sera le Grand Prix Chantal Biya, prévu en octobre prochain. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
De l'athlétisme pour finir et un nouveau podium pour Marie-Josée Talou en Ligue de Diamant.
L'Ivoirienne, 3e du 100 mètres du meeting de Stockholm en Suède, 11 secondes pour elle, ce qui la place derrière la Britannique Dina Asher-Smith, 2e en 10,93, et Julianne Alfred, la championne olympique de la distance qui signe sa meilleure performance de l'année en 10,75. Un meeting surtout marqué par le nouveau record du monde du perchiste Armand Duplantis avec une barre passée à 6,28 m.
Merci Antoine Grenier pour le journal des sports. Vous revenez tout à l'heure à 9h42, heure de Paris. À tout à l'heure.
RFI Matin.
On vous en parle évidemment beaucoup sur RFI et sur notre live dédié, notamment à retrouver sur RFI.fr. Cette montée de tension violente, brutale entre Israël et l'Iran. Édition spéciale d'ailleurs à suivre dans une demi-heure sur notre antenne. Un nouveau front ouvert en fin de semaine dernière par Israël et qui s'ajoute à un autre, Gaza, où l'État hébreu poursuit son offensive militaire sanglante. Plus de 55 000 morts ont été recensés à ce stade dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023, date de l'opération meurtrière menée par le Hamas sur le sol israélien. Analyse ce matin de notre grand invité Afrique, l'historien sénégalais Abdoulaye Batili, lui qui a été plusieurs fois ministre dans son pays, mais aussi émissaire de l'ONU en Libye. Entretien avec Christophe Boisbouvier.
Abdoulaye Batili, bonjour.
Bonjour.
Que vous inspirent les événements de Gaza ?
Eh bien, je crois pour tous ceux qui luttent pour la paix dans le monde, ce qui se passe à Gaza est une horreur indigne de l'humanité à ce stade-là.
Qu'est-ce qui vous horrifie en particulier ?
Des dizaines de milliers de morts, des enfants, des femmes, que des millions d'êtres humains n'aient pas la nourriture accessible. Tout cela aujourd'hui constitue des horreurs indignes de la communauté internationale qui regarde cela pratiquement avec une indignation sélective.
Alors que répondez-vous à ceux qui disent, notamment en Israël, que tout cela ne serait pas arrivé si le Hamas n'avait pas commis le massacre du 7 octobre 2023 ?
Avant le 7 octobre, ces horreurs avaient déjà commencé depuis 48. Les massacres à Deir Yassine, les massacres depuis la joie palestinienne, les déplacements forcés, le système d'apartheid qui a été mis en place et qui a transformé le peuple palestinien en peuple errant hors de son sol natal. C'est cela qui est la base pour comprendre le 7 octobre, même si on ne justifie pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais avant le 7 octobre, il y a eu plusieurs massacres, des millions de Palestiniens déplacés dans tout le territoire palestinien.
Au regard du droit international, quel est le mot qui convient à vos yeux pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ?
De mon point de vue, c'est un crime contre l'humanité. C'est des crimes de guerre qui sont perpétrés depuis le début de ce conflit.
Alors vous dites crime contre l'humanité, d'autres parlent de génocide.
Évidemment, c'est un génocide aussi contre le peuple palestinien. Les deux éléments sont liés dans ce cas précis.
En Europe, beaucoup de pays comme la France dénoncent ces massacres inacceptables commis par Israël, mais ils se refusent à parler de génocide. Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ce terme, c'est aux historiens le temps venu, dit par exemple Emmanuel Macron.
Non, c'est maintenant qu'il faut en parler, justement, pour prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. Les historiens, évidemment, mais on n'a pas attendu, par exemple, en 1945, c'est au moment où se commettaient les crimes par les nazis qu'on a parlé, effectivement, de crimes contre l'humanité, de génocide, la Shoah. On n'a pas attendu que les historiens écrivent 50 ans après. Les tribunaux qui ont jugé les crimes des nazis ont été installés à la foulée de la Seconde Guerre mondiale.
Alors le Sénégal condamne en termes très vifs l'agression d'Israël à Gaza. C'est une plaie ouverte sur la conscience internationale, dit le président Diomaye Faye. C'est de la barbarie, dit le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais le même Sénégal n'a pas condamné en 2022 l'agression de la Russie en Ukraine. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a deux poids, deux mesures ?
Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ce qui se passe en Israël, c'est de manière consistante depuis 1948, une violation flagrante des droits d'un peuple, un système d'apartheid institutionnalisé. Et à l'époque, j'avais écrit un article sur la connivence d'Israël avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud.
Et que pensez-vous de l'attitude des pays européens par rapport à ce qui se passe à Gaza ?
Eh bien, c'est là vraiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Et j'espère que l'humanité va se réveiller à cette réalité et qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Le peuple palestinien mérite d'être considéré.
Et c'est pour ça que vous parlez d'indignation sélective ?
Absolument, jusqu'ici. Peut-être pas tous les pays européens, mais en tout cas la plupart. Et nous qui sommes des peuples colonisés, au Sénégal, vous savez, il y a une unanimité en ce qui concerne les positions du gouvernement. Et le président Senghor, à l'époque, a parlé en 73 de la trilogie de la souffrance. les peuples juifs, arabes et noirs qui ont été victimes à certains moments de l'histoire, la colonisation, l'esclavage et la Shoah. Et la meilleure façon justement de tourner cette page noire des crimes contre des peuples, c'est justement que l'Europe s'engage, que l'Amérique s'engage aujourd'hui à mettre fin à cette indignation sélective et que tous les crimes contre l'humanité soient considérés au même niveau et condamnés sans appel. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde peut le constater, Israël fait partie des pays qui sont des fauteurs de guerre et des causes d'instabilité de la paix internationale. Espérons qu'on aille vers la reconnaissance de l'État de Palestine.
Abdoulaye Batili, merci.
L'historien sénégalais Abdoulaye Batili, il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. RFI Matin, votre chronique matière première. Aujourd'hui, cette décision de l'Union européenne d'imposer des droits provisoires sur le contreplaqué chinois. Et décision entrée en vigueur en fin de semaine dernière. Bonjour Marie-Pierre Olfant.
Bonjour.
Alors avec cette mesure, Marie-Pierre, l'UE répond à une plainte déposée par un regroupement de producteurs européens.
Oui, derrière ce groupement baptisé Greenwood, on trouve des industriels installés en Pologne, en Finlande, en France et dans les pays baltes qui dénoncent une concurrence déloyale de la part de la Chine. Leur plainte a été jugée suffisamment étayée aux yeux de la Commission européenne et après plus de 7 mois d'enquête, elle vient de décider de taxer à 62% toutes les entreprises chinoises qui exportent du contreplaqué en Europe, à l'exception de l'une d'elles taxée seulement à 25%. Ces droits s'appliquent essentiellement sur les contreplaqués de peuplier, de hêtre et de bouleau.
Ces taxes ont été décidées, Marie-Pierre, parce que la Commission européenne a jugé qu'il y avait concurrence déloyale.
Oui, elle dit avoir constaté qu'il y avait un préjudice important, c'est le mot, tant sur les prix que sur les volumes, entre l'été 2023 et l'été 2024, la période ciblée pour l'enquête. La Chine a de fait comblé en partie le vide laissé par les exportations russes après leur interdiction en Europe. En raison des prix cassés pratiqués par les entreprises chinoises, ces sanctions contre la Russie n'ont en revanche pas profité aux producteurs européens. La Commission européenne estime dans ses conclusions qu'à ce niveau de prix, la rentabilité de l'industrie du contreplaqué de l'Union n'est plus assurée.
Les fabricants de contreplaqué sont donc satisfaits, Marie-Pierre, des mesures de protection mises en place par l'UE ?
Oui, mais ils souhaitent que ces taxes provisoires soient prolongées et à un niveau plus élevé, seule condition, disent-ils, pour égaliser véritablement les règles du jeu. Leur argument, c'est qu'ils sont soumis en Europe à des normes environnementales et sociales beaucoup plus strictes que celles en vigueur en Chine et qu'ils ont des coûts de production beaucoup plus élevés. Dans tous les cas, les mesures européennes seront probablement vite confrontées à leur contournement. Il ne serait pas étonnant de voir la Chine vendre demain d'importants volumes de contreplaqué de résineux en Europe, un produit qui n'a pas le même code douanier que le contreplaqué de feuillu et qui peut échapper aux nouvelles taxes européennes.
Merci Marie-Pierre Olfant.
RFI Matin.
RFI, comme chaque jour, votre grand reportage à écouter en direct ou en podcast 20 minutes sans interruption qui nous emmène aujourd'hui au Venezuela où bien des familles de migrants sont en colère et se mobilisent. Leurs proches font partie de ces dizaines d'hommes et de femmes qui avaient demandé l'asile aux États-Unis et que le président américain a fait interner dans une prison de haute sécurité au Salvador. Un petit arrangement entre chefs d'État. Donald Trump les soupçonnait de faire partie d'une organisation criminelle de renom. Or, à la mi-mars, sans jugement, le transfert a eu lieu sous les critiques des défenseurs des droits de l'homme. Les familles, souvent modestes, démentent l'appartenance des leurs à des gangs et se retrouvent prises dans la tourmente diplomatique entre le très médiatique salvadorien Bukele, le polémique américain Trump et le controversé vénézuélien Maduro. Migrants vénézuéliens emprisonnés au Salvador, les familles s'insurgent. C'est un grand reportage d'Alice Campagnol. Tout de suite un extrait.
Une fois de plus, des mères, des pères, des sœurs se sont réunis à Caracas pour interpeller l'opinion publique et les autorités sur ce que vivent leurs proches, incarcérés dans une prison de haute sécurité à plus de 2000 km de là.
Nous sommes ici pour crier haut et fort que nos enfants ne sont pas des délinquants. Ils n'appartiennent à aucune organisation criminelle. On est là pour les défendre, pour dire que ce sont des gamins sains, des bosseurs. Ils sont partis pour nous aider, pour soutenir leur famille. Et maintenant, ils vont être marqués à vie par cette histoire.
Il serait 252, rien n'est officiel, des Vénézuéliens qui avaient demandé l'asile aux États-Unis et qui sont désormais enfermés au CECOT, acronyme pour Centre de Confinement du Terrorisme au Salvador. Une méga prison pouvant accueillir jusqu'à 40 000 détenus destinés aux membres des Maras, ces gangs qui terrifient le Salvador. Carla et Rosa.
On est désespérés, c'est une vraie agonie. Alors on se mobilise, on se rassemble dans différents endroits, notamment devant les sièges des organisations étrangères, pour demander de l'aide, du soutien. Et au président Bukele, on le supplie qu'il nous dise quelque chose, qu'il ait un peu de pitié et qu'il nous donne des nouvelles. C'est terrible de ne rien savoir d'eux. Chaque jour, ça me tue un peu plus de ne pas recevoir un appel, de ne pas savoir dans quelles conditions ils se trouvent.
Si je reste à la maison toute seule, je n'arrête pas de pleurer et je commence à penser à lui et à ce qui lui arrive, comment il va, qu'est-ce qu'il mange. Il y a des jours où je n'arrive même pas à manger. Je pense aux CECOT et je l'imagine, avec ce que j'ai lu sur Internet, puisque c'est la seule information que l'on a. Personne n'a été en contact avec eux, donc je l'imagine, qui dort sur un lit en tôle, qui mange seulement des haricots. Et sa santé?
Ce grand reportage d'Alice Campagnol a écouté en intégralité sur RFI aujourd'hui à 19h40 temps universel, à retrouver aussi en podcast sur notre site RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Ce lundi sur RFI.
Jusqu'où iront les redoutables champignons parasites?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Dévastateurs pour tous les êtres vivants sur Terre comme dans les océans, ils ont inspiré Alien et la série apocalyptique The Last of Us. Entre science et science-fiction, qui sont ces terrifiants champignons parasites capables de prendre possession des vivants?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.